Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Inter. Merci Timour. Le prochain flash dans une heure à 17h sur France Inter.
Avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Laurie Lefebvre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cours de mes interventions dans cette émission sur l'inconscient, j'ai choisi de vous parler d'une parole entendue lors d'une séance, d'une parole qui peut être celle de beaucoup d'entre nous, d'une expression, d'un mot pour vous évoquer la façon dont j'exerce la psychanalyse, la façon dont on peut entendre l'inconscient et travailler avec l'inconscient. La façon d'être travaillé par l'inconscient. Lors de la dernière émission, je vous ai parlé de la pulsion scopique, et notamment le désir et l'effroi de voir des images et des scènes violentes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la croyance, et plus précisément de la croyance en des images. De la conviction qui ne résiste devant aucun doute face à ce qui peut être vu. Parfois, quelques patients parlent de leurs croyances et de la vérité qu'ils dégagent de certaines images vues sur les réseaux sociaux. Avec ChatGPT et l'intelligence artificielle, des images peuvent être créées, inventées et faire illusion. Une patiente me dit qu'elle est persuadée qu'elle a vu sur les réseaux sociaux l'image de son ancien compagnon qui l'a quitté. Celui-ci portant un pull qu'elle lui avait offert, signe, selon elle, qu'il souhaite renouer avec elle. Elle s'en dit persuadée, mais doute aussi de tous les signes qu'elle veut bien voir, comme elle dit. Un autre me parle de ses superstitions et de ses croyances, de sa pensée magique qui lui permet d'interpréter surtout dans son sens, comme il dit. Il y a parfois des croyances que les patients n'osent évoquer, car ils pensent que cela peut être entendu comme des idées un peu folles, comme le dit une patiente, comme un délire, comme me dit un autre. Après avoir partagé avec vous ces réflexions sur la croyance en des images et les illusions, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
L'inconscient, avec Laurie Lefebvre, sur France Inter.
Une jeune patiente me dit qu'elle ne cesse de se reprocher de passer tant de temps sur les écrans au détriment du temps passé avec sa famille. Elle me parle d'addiction aux écrans, d'addiction aux images. Je lui demande quelles images elle regarde. Elle répond « des images de famille heureuse », ajoutant « une illusion de famille heureuse ». Un autre patient me raconte à quel point les images agissent sur lui. « Ce ne sont pas seulement des images, mais des diktats », dit-il. Une patiente encore me dit comment elle s'est fait arnaquer, selon ses termes, sur Internet, en achetant des habits de luxe que le site proposait en les présentant sur elle. Des habits chers, proposés à une somme ridicule, à partir d'une image créée avec son image, portant ses habits. Elle ajoute « J'ai toujours été crédule ». Il y a deux textes de Freud qui abordent les questions de l'illusion et de la croyance. C'est l'avenir d'une illusion, qui date de 1927, et Malaise dans la civilisation, qui date de 1929. Dans le texte L'avenir d'une illusion, Freud analyse les raisons du fait religieux, de la foi et de la croyance. Freud, rationaliste et athée, développe ainsi sa thèse, je le cite. « Face à la nature qui s'élève contre nous, grandiose, cruelle, inexorable, imposant des privations, l'homme peut élaborer psychiquement sa peur des éléments naturels et se retrouve vulnérable, sans protection. À partir de la notion de détresse humaine, de désaide, comme il est traduit, Freud en vient à l'idée de la nostalgie du père et des dieux protecteurs, et par conséquent, à la nécessité d'une providence bienveillante. » Exposée à une grande vulnérabilité et une grande impuissance devant l'effroi et la peur qu'impose le réel, c'est-à-dire ce qui est innommable, indicible, comme la mort, la maladie, le désastre, Freud évoque, je le cite, « une providence pleine de bonté, sévère en apparence seulement, qui ne permet pas que nous devenions le jouet des forces naturelles démesurées et implacables ». Pour Freud, donc, les croyances, la foi, sont le plus précieux patrimoine de la civilisation, permettant, comme il le dit, de se défendre contre la suprématie de la nature et de corriger les imperfections de la culture. Mais en croyant dans les forces de la nature, poursuit Freud, l'homme ne fait guère que suivre le modèle infantile, la croyance des enfants, en somme. Finalement, la détresse adulte prolonge la détresse de l'enfant. Pour Freud donc, les idées religieuses chez l'adulte se situent dans la parfaite continuité des réactions défensives de l'enfant contre son sentiment de détresse. Ce sont des croyances forgées et fixées, et le problème majeur est sans doute celui qui repose sur le fait qu'il est défendu de poser la question de l'authenticité de ces croyances. Dans ces deux ouvrages, « L'avenir d'une illusion et malaise dans la civilisation », Freud analyse donc la valeur des idées religieuses et met l'accent sur le fait que, grâce à la religion, l'homme se sent protégé de deux côtés, dit-il. D'une part, contre les dangers de la nature et du destin, d'autre part, contre les dommages causés par la société humaine. Ainsi, ce serait la détresse humaine, le besoin de secours face aux catastrophes naturelles, face à la mort, face aux guerres, qui serait à l'origine des croyances, et notamment des croyances religieuses. Puis Freud se demande d'où provient la force de ces croyances qui s'appuient sur des éléments que l'on ne peut pas prouver, et qui parfois même apparaissent d'emblée comme incroyables. S'agit-il, je le cite, de cette efficacité indépendante du contrôle de la raison? Pour répondre à cette question, il faut, écrit-il, en chercher la signification psychologique. Il écrit « Les idées religieuses ne sont pas le résidu de l'expérience ou le résultat final de la réflexion. Elles sont des illusions, la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus puissants de l'humanité. Le secret de leur force est la force de ces désirs. » Freud articule ainsi « désir » et « illusion ». Freud précise aussitôt qu'illusion ne signifie pas erreur. Car si l'illusion a à voir avec le désir, on ne peut corriger son désir. Un désir ne peut être une erreur, c'est un désir. Freud constate ainsi que les médiums, les spirites, sont, je le cite, convaincus de la survie de l'âme individuelle et qui veulent nous démontrer de façon indubitable cette thèse précise de la doctrine religieuse. Mais, dit-il, ils ne parviennent pas à réfuter que les apparitions et les propos de leurs esprits ne sont que des productions de leur propre activité psychique. La croyance dans les esprits, dans les forces occultes, selon Freud, sont des croyances qui rassurent l'adulte, tout comme les croyances en des personnages fantastiques ou magiques qui rassurent les enfants. Certaines croyances apparaissent finalement comme des illusions indémontrables, dit-il encore. Et ces illusions indémontrables peuvent ne pas être en contradiction avec la réalité, mais elles renoncent néanmoins à être confirmées. Freud se pose donc la question : peut-on vivre sans illusions ? Peut-on vivre sans croyances ? Sans idées un peu magiques qui nous font croire en des images, en des choses étranges ? Pour illustrer la question de Freud, à savoir « peut-on vivre sans illusion ? Peut-on vivre sans croyance ?», je vais l'illustrer par une exposition qui a eu lieu en 2004 à la Maison européenne de la photographie. Cette exposition, intitulée « Le troisième œil », a été consacrée au phénomène de ce que l'on a appelé les photographies spirites. À partir des années 1870, les photographes spirites proposaient aux endeuillés une dernière rencontre avec le disparu, avec un être cher. Un être cher souvent sans sépulture, quand il était tombé au champ de bataille. Les personnes se rendaient chez ces photographes, qui leur promettaient de revoir la personne disparue. Cette dernière rencontre était alors fixée sur une plaque photographique que les familles payaient et emportaient avec elles. Ainsi, il s'agissait non seulement de faire revenir un instant le disparu, mais surtout d'en fixer la trace, d'en imprimer la présence, d'en produire une image. À l'occasion de cette exposition, reposant sur un vaste travail d'historien et de muséologie, étaient présentées des centaines de photos dont une grande partie datait des grandes périodes meurtrières que furent la guerre de sécession aux États-Unis et la Grande Guerre en Europe. C'est en effet durant ces périodes que l'on vit se développer certaines pratiques consacrées à la communication avec le monde de l'au-delà. Et ce matériel photographique est une des manifestations tangibles de l'occultisme à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. À l'occasion de cet événement, nous pouvions alors mesurer l'importance de ce phénomène qui a traversé l'Europe durant plusieurs décennies. À la faveur des progrès techniques, en effet, la photographie était utilisée comme un support d'enregistrement de phénomènes paranormaux et surnaturels. On y voyait une aura, un ectoplasme, une silhouette fantomatique, une forme spectrale des défunts. Ce mouvement spirit aurait pu être une anecdote de l'histoire s'il n'avait connu un succès retentissant. À partir des années 1870, les photographes spirit proposaient aux endeuillés une dernière rencontre virtuelle avec le disparu, un être cher tombé au champ de bataille, et donc sans corps et sans sépulture. Les personnes se rendaient chez ces photographes qui leur promettaient de revoir la personne disparue, même dans des formes spectrales. Cette dernière rencontre était alors fixée sur une plaque photographique que les familles payaient et emportaient avec elles. La proposition des photographes spirites aux familles et aux endeuillés était en effet tentante. Un grand nombre de personnes affluèrent dans les studios de ces photographes qui, pour l'occasion, se présentaient comme des médiums, de véritables intermédiaires entre le monde des vivants et le monde des morts. Aujourd'hui, s'intéresser à ce phénomène, questionner un tel engouement, nous permet de nous interroger sur des mécanismes psychiques à l'œuvre dans des situations traumatiques. Que se passe-t-il lorsqu'une personne arrive à croire qu'un photographe médium va lui permettre de revoir la personne qu'elle a perdue ? Comment des hommes et des femmes, rationnels et sensés dans leur métier et leur vie quotidienne, veulent croire à l'impossible ? Ces mécanismes sont ceux d'une nécessaire illusion, d'un moment hallucinatoire. La question serait trop vite écartée si l'on y répondait par un diagnostic de délire particulièrement bien structuré. Le phénomène de croyance des photographies spirites est complexe. Il nous conduit à penser la question du clivage. Clivage que Freud et Ferenczi, l'un de ses disciples, ont défini comme étant une des conséquences psychiques du traumatisme. Le clivage créé par le traumatisme met à l'écart la cause du trouble et modifie la réalité, analyse Freud. Pour surmonter la douleur, le sujet transforme alors la réalité, il la métamorphose, en produisant des représentations que Ferenczi désigne comme des représentations illusionnaires. Je cite Ferenczi. Le patient recourt à la production de représentations concernant le changement futur de la réalité dans le sens favorable. Le fait de s'accrocher à ces images de représentation qui mettent donc l'accent sur le plaisir nous rend capable de supporter ce déplaisir. C'est-à-dire de ne pas ou de moins le ressentir comme tel. Les représentations agissent comme antidote contre le déplaisir. Simultanément se produisent aussi des réactions substitutives que l'on pourrait qualifier d'illusionnaires. On l'entend dans cette citation, mise à l'écart et réactions substitutives, clivage, illusion et hallucination. Telles sont les réactions à des traumatismes qui déchirent le moi. Traumatisme de la disparition, traumatisme provoqué par la douleur, traumatisme causé par des séparations, des agressions. Ce que disent Freud comme Ferenczi, c'est que face au verdict de la réalité, face au principe de la réalité qui est traumatique, la mort brutale, la perte, face au désarroi, face à la détresse, la vie psychique produit des réactions substitutives. Et ces réactions de substitution se manifestent par le biais d'hallucinations, d'illusions et de croyances. Alors, face à cette nécessité illusionnaire, que se passe-t-il dans les studios de photographes spirites ? Les clients arrivent, parlent, se racontent, racontent leur histoire. Et derrière l'objectif, le photographe met en scène, de façon solennelle, la séance de prise de vue de la famille. Le spectre, la forme ectoplasmique ou encore l'aura de leur disparu apparaît au tirage à côté des vivants. Sur la photo, la personne disparue est suffisamment floue ou cachée dans un voile pour que ses traits n'apparaissent qu'indistinctement. Les endeuillés, eux, le reconnaissent pourtant. Ils sont illusionnés par la forme aperçue et ils croient en cette illusion. Notons que les enfants aiment voir les magiciens faire apparaître ou disparaître des formes. Ils aiment les voir faire apparaître ou disparaître des personnes ou des objets. Tout se passe comme si une forme de maîtrise du monde était possible. Mêlée à la fois d'angoisse et de joie débordante, l'illusion et la croyance qui en est la conséquence peuvent apaiser l'angoisse.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec Laurie Lefebvre.
Ainsi, au XIXe siècle, à partir de cette croyance s'appuyant sur des perceptions sensorielles parfois hallucinatoires, les phénomènes occultes se développent sur le terrain du deuil et du désespoir. Les écoles de spiritisme se multiplient, les tables tournent, les vers se déplacent et émettent des messages de l'au-delà. Des écrivains comme Victor Hugo ou Maupassant, en passant par les psychanalystes Jung et Ferenczi, nombreux sont ceux qui y accordent une vive attention. Ce fut également le cas de Freud, sollicité par ses courants spirites. Quelques-uns de ses textes attestent de son intérêt, certes empreint de méfiance liée au positivisme ambiant et d'une interrogation qui semble rester pour lui sans réponse précise. Dans ses textes, Freud s'interroge sur les phénomènes occultes, télépathiques, transmission de pensées et autres rêves prophétiques. Je le cite. Il ne semble plus possible de rejeter l'étude de ce que l'on appelle les faits occultes, ces choses qui prétendent cautionner l'existence réelle de puissances psychiques autres que l'âme des hommes et des animaux que nous connaissons ou qui dévoilent des capacités jusqu'ici insoupçonnées en cette âme. L'attrait de cette recherche semble être d'une force irrésistible. Nous croyons comprendre aussi où ce courant puise sa force. Freud rajoute: il est à la fois une expression de la dévalorisation qui a atteint, depuis la catastrophe mondiale de la Grande Guerre, tout ce qui subsiste, une partie du tâtonnement face à ce grand bouleversement dont nous nous rapprochons et dont nous ne pouvons pas encore deviner l'ampleur, et certainement aussi un essai de compensation pour recouvrer dans un autre domaine supraterrestre ce que la vie sur cette terre a perdu en charme. En effet, rajoute Freud, maints processus des sciences exactes elles-mêmes peuvent avoir favorisé ce développement. Ce que dit Freud là est très intéressant. Plus les guerres et les traumatismes bouleversent la vie, plus des phénomènes de croyance pourront se développer. Plus il y aura de la détresse, ce que Freud écrit en allemand « Hilflosigkeit », plus le sujet aura recours à la satisfaction hallucinatoire de désir. Ce qu'à l'époque, Freud et les psychiatres de son temps ont nommé la psychose hallucinatoire de désir abolit l'épreuve de réalité, par, comme le dit Freud, le fantasme de désir clairement reconnaissable. Ce fantasme restaure l'ancien mode de satisfaction par l'hallucination. Freud d'ailleurs donne l'exemple du nourrisson qui hallucine le sein désiré mais absent de la mère. C'est ce désir désordonné, affolant toutes les certitudes de la science officielle dont s'emparent au XIXe siècle certains photographes. Il se produit, je l'ai dit, un véritable engouement commercial qui s'accompagne d'une circulation intense des images spirites. De Londres à Saint-Pétersbourg, en passant par Turin, Genève, Naples, on les reproduit, on les vend, on les collectionne. Sans cesse, ces photographies doivent affronter les accusations de fraude. Mais durant plus de 50 ans, chaque nouvelle découverte en matière de rayonnement lumineux, de faits optiques, remet en mouvement la démonstration de cette nouvelle science de l'invisible. Les photographes spirites et les médiums prolifèrent. Les autorités scientifiques et policières commencent à s'en inquiéter. Face à l'émergence de cette menace fantasmatique, les camps s'opposent de façon tranchée, les spirites face aux scientistes. La rationalité peut-elle faire entendre quelque chose devant l'illusion ? Et la croyance en ces illusions ? Se produisent alors des événements étonnants pour qui se veut rationnel.
La cour ! Les débats sont ouverts.
En juin 1875, se tient un procès devant une chambre du tribunal correctionnel de Paris. Un photographe, le directeur de la revue Spirit et un jeune Américain identifié comme médium sont poursuivis pour escroquerie et complicité d'escroquerie. Tout au long des journées d'audience, où comparaissent plus de 50 témoins, il est question de spectres et d'esprits, d'illusions ou de réalités surnaturelles, de manœuvres frauduleuses ou de ressemblances véritables. Deux mois auparavant, ce procès, trois clients s'étaient présentés chez le photographe. L'un d'eux avait souhaité obtenir le portrait de son père défunt. La demande n'avait pas surpris le photographe, qui l'avait invité à monter sur la terrasse de l'atelier pour poser en lumière naturelle. Mais la séance était brutalement interrompue. L'un des accompagnateurs avait ordonné l'examen de la plaque de verre que l'opérateur venait d'installer dans le châssis. Les clients étaient en réalité des inspecteurs de police. La plaque saisie une fois développée, mise au jour qu'elle portait déjà deux images impressionnées. Les policiers, après perquisition du studio, découvrirent également un second laboratoire caché à la clientèle. Le flagrant délit était avéré. À nouveau, cette question se pose. Comment tant de gens ont-ils pu croire à ce qui n'était qu'une immense supercherie destinée à extorquer des sommes importantes à des personnes rendues vulnérables par la perte ? Cette nouvelle science, analyse Freud, défie les discours rationalistes de l'époque. En ce sens, l'illusion déjoue les catégories spatio-temporelles empiriques. Elle projette la subjectivité dans une temporalité et un espace qui lui sont propres. Touchant aux conditions de la présence et de la croyance, la révolution photographique transforme les relations entre le sujet, l'image et la réalité, entre les sujets eux-mêmes. On ne modifie pas les supports sans transformer aussi les rapports entre les personnes. Revenons aux photographies spirites. Elles sont vendues si chères que très vite, on assiste à de multiples procès pour escroquerie. Lors d'un procès, l'un des plus renommés photographes spirites de l'époque plaide pour son innocence. Il dit qu'il ne trompait pas ses clients. « Je les laissais dans leurs croyances. Je ne les induisais pas en erreur. Je restais neutre. » C'est la croyance dans l'illusion qu'il est important de relever dans ce phénomène. Les endeuillés veulent y croire. Même lorsque les photographes spirites passent aux aveux et reconnaissent avoir fabriqué de toutes pièces ces images trompeuses, ce qui fut le cas dans de nombreux procès, certaines familles continuent à soutenir la véracité de la rencontre avec le disparu enregistré sur la plaque. La question n'est donc pas celle de l'authenticité de ce qui est imprimé sur la photographie, mais celle de l'effet d'illusion que produit l'image. C'est le mécanisme du clivage, mécanisme psychique que le psychanalyste Octave Manoni a formulé par la proposition suivante. « Je sais bien, mais quand même. Je sais bien que ce n'est pas vrai, mais quand même, j'y crois. Car cela m'apaise d'y croire. L'image là est comme une preuve de la présence de l'absent. » Et paradoxalement, cette preuve joue sur une croyance, proche d'une conviction que rien ne peut venir contredire. La question n'est pas tant la preuve que l'effet de présence que suscite la photographie, que suscite l'image.
soir je faisais une pleine eau pour tout maillot, j'avais la peau, nul ne pouvait me voir, colossiel noir.
Ça fait peur aux gens sans doute, cet homme sans rien sur lui, ce voyageur sans nom. Parce qu'on m'a découvert un soir de printemps 1918 dans une gare de triage, sans sac, sans musette, sans écusson.
Exactement, hélas.
Au moment même où les phénomènes spirites et occultes suscitent un large engouement, un fait divers défraye la chronique. Il s'agit de l'histoire de celui que l'on a nommé le soldat inconnu vivant. En 1918, un soldat revient du front, blessé, meurtri, et comme beaucoup d'autres soldats, traumatisé par l'expérience de la guerre. Mais sa particularité, c'est qu'il a tout oublié. Il est amnésique et mutique. Il ne se souvient ni de son identité, ni du lieu d'où il vient. C'est un homme sans mémoire, perdu dans un passé innommable. Sa photographie est alors publiée dans les journaux tant nationaux que régionaux. C'est à partir de la publication de cette photographie qu'affluent des dizaines de familles réclamant ce soldat et attestant de sa filiation. Les autorités doivent faire face à un acharnement de certaines familles qui, prises dans l'illusion de ce retour fantomatique, s'accrochent à leurs convictions. Un procès intenté par une famille contre les autorités préfectorales qui leur refusent la reconnaissance filiale de ce soldat dure jusqu'à la mort de celui-ci en 1942. Certaines chroniques relatent parfois de façon ironique des faits particulièrement intéressants à analyser. Des familles venaient au commissariat ou en préfecture, photographies de leurs disparus en main et réclamaient ce soldat. Les autorités comparaient les photos du disparu et celles du soldat qui, d'évidence, ne présentaient aucune ressemblance. Les autorités, plus qu'étonnées, étaient dépassées. Alors que la seule réalité pouvait attester du fait, les familles persistaient à croire que ce soldat était leur chair disparue à elles, et que ce soldat devait donc rentrer chez lui désormais puisqu'il avait retrouvé sa famille. Qu'est-ce qu'une preuve de la réalité face à l'illusion et à la conviction ? Que cela soit dans cette circonstance ou lors des procès en escroquerie pour les photographies spirites, les juges et les scientifiques semblent découragés devant l'opiniâtreté des personnes dans la peine. Lors d'un jugement, un président de séance relate les faits avérés de tromperie lors d'une séance de photos. Ce président dit à l'endeuillé « Vous êtes bien sûr de ne pas vous être trompé ?» en lui décrivant à nouveau la technique frauduleuse. Et l'endeuillé de répondre « Oh, certainement pas, j'ai parfaitement reconnu ma sœur. Vos histoires de procédés de mannequins cachés, qu'est-ce que cela prouve ?» Il a pu s'en servir une fois ou deux, mais moi, lorsque j'ai évoqué l'esprit de ma sœur, elle m'est apparue. L'histoire raconte que le juge a beau proclamer sa neutralité pour simplement faire reconnaître un procédé frauduleux, à chaque fois il échoue, se heurtant aux preuves tout aussi évidentes pour ceux qui les ont éprouvées de l'authenticité des portraits posthumes. Que prouvent donc les faits réels face à la conviction illusionnaire ? Il y a là, dans des situations traumatiques, une insistance souveraine du leurre. Ce leurre fabrique une réalité qui déloge toute preuve rationnelle et scientifique. L'image n'est pas seulement une forme, elle n'est pas seulement un contenu, elle ne fait pas que montrer quelque chose, elle est aussi et surtout une force agissante sur la vie psychique du patient. Une force émotionnelle et donc psychique. Elle est alors une folle énergie. Ce qui compte dans l'image, écrit le philosophe Gilles Deleuze, ce n'est pas son pauvre contenu, mais précisément sa folle énergie. Dans l'usage courant, l'illusion a souvent une connotation négative. Mais pour Freud, il ne s'agit pas de combattre l'illusion au nom d'une véracité à rétablir. Il s'agit de l'appréhender selon son rapport au désir et à la vérité du sujet. Freud écrit « Nous appelons illusion une croyance quand, dans la motivation de celle-ci, la réalisation d'un désir est prévalente et nous ne tenons pas compte, ce faisant, des rapports de cette croyance à la réalité, tout comme l'illusion elle-même renonce à être confirmée par le réel. Aussi, dans une séance d'analyse, lors d'une analyse, la question des illusions, de la croyance, des croyances, y compris en des réalités fabriquées, illusionnaires, sont un fil à remonter pour arriver à entendre le désir qui les tient. Comme dit Freud, tout comme le rêve, les illusions et les croyances sont une réalisation de désirs infantiles. Et ce désir perdure bien des années encore. Restez à l'écoute. Dans un instant, je répondrai à toutes vos questions. Mais tout de suite, voici Flavien Berger, Sapon, sur France Inter.
Je monte sur mon vélo, dans la ville il fait chaud, je vais faire des savons. Bon, je te laisse un mémo dans lequel je m'émeux, car j'écoute ta chanson. Son mise à jour du ciel, c'est le crépuscule, je suis plus si seul. Les fleurs s'allument, j'adopte un verre luisant calé sur ma chemise. J'ai pas de lumière, petite bêtise. J'accélère, filant dans le soir, la ville s'endort en silence. J'accélère, reniflant l'odeur enivrante des plantes.
Sur France Inter, dans l'inconscient, c'est à vous maintenant. Je vous écoute.
Bonjour. Est-ce que finalement les situations que vous avez décrites avec ces photographies spirites, ces fausses reconnaissances de personnes disparues, voilà, est-ce que c'est pas que des situations dans lesquelles en fait il y a erreur sur la personne, pour citer Freud? Et du coup, est-ce que le principe même de l'analyse finalement, c'est pas de venir défaire la première des illusions qui est l'illusion apportée par le transfert dans laquelle on s'adresse à quelqu'un en s'adressant à quelqu'un d'autre. Voilà, merci.
Merci beaucoup Justine pour cette question très intéressante. Alors Freud appelait au tout début dans ses premiers textes, appelait le transfert l'attente croyante. Il y a évidemment dans ce dispositif dont vous parlez une confiance nécessaire, mais ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est le fait de faire un lien entre l'illusion et le transfert. Oui, bien sûr, ce rapport transférentiel peut participer d'une attente croyante, comme le disait Freud, mais que vous fassiez le lien entre les photographies spirites et le transfert me fait penser que Ferenczi, qui était un disciple de Freud, disait que, d'une certaine façon, l'analyste pouvait être à la place de plusieurs fantômes. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand Ferenczi parle des fantômes, en évoquant la figure de l'analyste, il met en perspective le fait que la fonction de l'analyste, c'est à la fois de convoquer dans la parole du patient tous les vivants et tous les morts, et que lui-même peut être une figure fantomatique, c'est-à-dire à la fois mort et à la fois vivant. Et ça, c'est aussi un point au cœur du transfert.
Bonjour, je m'appelle Nina. J'aimerais poser une question à Laurie Loffer suite à son podcast sur les croyances et les illusions. Alors d'abord, je pense que effectivement, c'est pas possible de vivre Il me semble que c'est pas possible de vivre cette vie-là sans croyances et illusions telles que vous les décrivez dans votre podcast, particulièrement dès lors qu'on est confronté à la peur de la mort, l'effroi et la constatation que, en tout cas pour les humains, l'éternité n'est pas de ce monde. Alors il me vient une question qui est peut-être un peu loin, mais bon, si j'ai fait cette association d'idées, peut-être que c'est pas si loin que ça. À votre avis, vous avez parlé plusieurs fois dans vos émissions de Romain Gary, qu'est-ce qui se passe en matière de croyances et d'illusions dans La Promesse de l'Aube, dans cette histoire, à la fois pour la maman et le fils? Je vous remercie, à bientôt.
Merci beaucoup Nina de votre question et de me renvoyer à un auteur que j'aime beaucoup, Romain Gary. Juste avant de parler de Romain Gary et de La Promesse de l'Aube, un point que vous évoquez et que je crois important de souligner lorsque vous dites que, bien sûr, il n'est pas possible de vivre sans croyance et sans illusion lorsqu'on est confronté à la peur de la mort, à l'effroi devant une réalité qui nous échappe et sur laquelle nous n'avons aucune prise. C'est précisément ce que dit Freud. Lorsqu'on est confronté à la peur, à l'effroi, ça produit aussi des formes de nécessaire, d'illusion bénie, comme dirait Virginia Woolf, une autrice que j'aime beaucoup aussi. Alors, en ce qui concerne Romain Gary dans La Promesse de l'Aube, ce qui est très intéressant, c'est que la mère de Romain Gary n'est pas seulement dans l'illusion ou dans la croyance que son fils va être un grand homme, elle est dans la conviction de ça. Elle est dans la conviction que son fils va devenir quelqu'un d'important. Et d'ailleurs, ça pèse beaucoup. Cette conviction pèse beaucoup sur le personnage du fils, sur Romain Gary, puisque il ne peut pas ne pas tenir cette promesse vis-à-vis de sa mère. Donc en fait, là, on a une espèce d'idéal du moi qui est pesant, qui peut devenir même des injonctions, pas simplement une attente, mais des injonctions à devenir la projection même ou la conviction même de la mère de Romain Gary. Donc, bien sûr qu'il y a une croyance dans ce fils, mais cette croyance, elle est tellement forte, si je puis dire, qu'elle en devient une conviction. Et ça, c'est un point intéressant, parce que parfois, une des différences que peut faire l'approche psychiatrique, si je puis dire, entre quelque chose qui est nécessaire et quelque chose qui devient extrêmement contraignant, voire extrêmement enfermant dans la vie psychique, c'est la différence qu'il peut y avoir entre une croyance et une conviction. C'est-à-dire, la conviction, c'est quelque chose qui peut parfois enfermer le sujet et ne plus le laisser sortir en dehors de cette conviction. Mais dans La Promesse de l'Aube, Romain Gary, le protagoniste, se joue un peu de ses convictions. Voilà, il y met aussi beaucoup d'humour. C'est ce qui fait que lorsque on articule croyance, illusion et humour, on arrive à se sortir un petit peu du poids de la conviction.
Bonjour, je m'appelle Florence, je vous remercie pour tous ces podcasts fort intéressants. En ce qui concerne l'illusion, est-ce qu'il suffit de se souvenir pour sortir de l'illusion? Merci pour votre réponse.
Merci beaucoup Florence pour votre question fort intéressante sur le rapport entre souvenir et illusion. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans la préhistoire de la psychanalyse, Freud avait pensé qu'il suffisait de se souvenir de se souvenir d'un moment, d'un événement qui pouvait être traumatique et qui avait été refoulé, oublié, pour lever le symptôme, pour faire en sorte que le symptôme n'existe plus, si je puis dire ça comme ça. Or, après, il s'est rendu compte que ce symptôme, il était nécessaire au patient. Comme une sorte de, justement, comme une sorte de rapport au souvenir, d'un rapport qui fait un peu illusion. Justement, il y a un rapport entre souvenir et illusion. Et parce que le souvenir, c'est aussi une forme de fiction, c'est aussi une forme de récit. Et je crois que, d'une certaine façon, il y a la nécessité de garder quelques illusions qui sont en lien avec le souvenir. Dans l'inconscient, nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions après Maxwell Farrington et le Super Omar, Hexagone sur France Inter. Suivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Bonjour Madame Loffer, merci pour votre choix de sujet encore une fois passionnant et fondamental. On ne pourra jamais tout dire sur un sujet aussi capital, tant il semble être à la source de beaucoup de problèmes psychiques. D'ailleurs, dans le langage commun, on appelle cela prendre ses désirs pour la réalité. Tandis qu'on ne peut que constater que depuis toujours, les croyances guident les peuples, leur faisant faire également les pires exactions. Je ne sais pas si ce que j'ai à vous demander est une question ou juste un besoin que vous me disiez si je ne suis pas moi-même dans une croyance. Malraux aurait dit « le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Mais pour l'instant, je constate surtout qu'il est le siècle des illusions, des faux selfs et des délires collectifs, y compris religieux. Aussi, outre les évolutions techniques qui font vivre de nombreuses personnes dans des réalités virtuelles, avez-vous pu identifier des mécanismes psychiques nouveaux et spécifiques, en plus de ceux dont vous avez déjà parlé, qui font que beaucoup préfèrent croire que savoir et préfèrent vivre dans le monde qu'ils se sont créé plutôt que le réel? Enfin, si vous pensez qu'il y a des spécificités issues de notre société actuelle, à quelles évolutions et aux causes les attribuez-vous? Bien cordialement.
Merci beaucoup Jean-Marc pour votre question, très importante, très foisonnante en réflexion, et qui me fait penser à la chose suivante. C'est-à-dire que vous avez raison d'évoquer la formule « prendre ses désirs pour la réalité ». En fait, cette formule, elle peut renvoyer à la création, d'une certaine façon, c'est-à-dire à la littérature, au cinéma, c'est-à-dire qui prend ses désirs pour la réalité si ce ne sont les créateurs, les poètes, ceux qui fabriquent une illusion, mais en sachant que c'est une illusion, en sachant que ce sont des croyances, en sachant que c'est de la création, d'une certaine façon, une déformation de la réalité, et qu'ils proposent cette déformation de la réalité justement pour ouvrir des espaces fantasmatiques, illusoires de cette réalité. Et d'ailleurs, Freud disait que les poètes et les créateurs précèdent la psychanalyse, dans le sens où eux savent produire une illusion qui est reconnue comme telle autour de la réalité. Donc ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant à repenser. Et votre réflexion me fait aussi dire que lorsque vous évoquez les évolutions techniques, lorsque vous dites que outre les évolutions techniques, eh bien je pense qu'il faut prendre en considération cette affaire-là. Je l'ai dit tout à l'heure, plus la science, les évolutions techniques, technoscientifiques, technomédicales, enfin toutes les évolutions techniques, qui sont très importantes, qui sont évidemment nécessaires à un type de progrès humain, on ne peut pas revenir évidemment là-dessus, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que, et c'était le psychanalyste Jacques Lacan qui avait fait cette réflexion, plus la science va se développer, ou plus les évolutions techniques vont se développer, plus peut-être le sujet aura besoin de croyances alternatives, si je puis dire. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est ce que disait Lacan, le sujet de la science, c'est le sujet de la psychanalyse. C'est-à-dire que tout ce que le progrès scientifique ne peut pas rendre compte de ce que sont les rêves, les fantasmes, tout ce qui n'entre pas dans les calculs, dans les équations de la science, c'est le sujet de la psychanalyse. C'est-à-dire, ce que dit la psychanalyse, c'est que l'individu a besoin de parler de ce qui n'entre pas dans la rationalité. Et ce qui n'entre pas dans la rationalité, ce sont aussi ses croyances et ses illusions. Donc, ça peut paraître un paradoxe, mais plus la science avance, plus il y a de la fabrique d'illusions et de croyances.
Bonjour Simone, je me posais la question, j'avais envie de vous poser la question sur le besoin de croire, et peut-être même l'illusion, mais plus le besoin de croire qui, je trouve, est à l'œuvre aussi par rapport à certaines idéologies, par rapport à des croyances politiques, des croyances religieuses, pour lesquelles le sujet est plus dans la nécessité de continuer à croire au-delà de faits réels qui montreraient qui vont à l'encontre même d'une certaine vérité, d'une certaine réalité. Je pense à des gens des staliniens qui, à l'époque de Staline, voulaient continuer à croire à l'idéologie communiste, même en étant au courant de tout ce qui pouvait se passer dans les goulags. Donc je me demandais, ma question ce serait, est-ce que le besoin de croire peut-il devenir une contrainte? Je vous remercie, bonne journée, au revoir.
Merci beaucoup Simone pour cette question très intéressante, très importante sur le besoin de croire. Ce que Freud dit dans un certain nombre de ses textes, c'est que ce besoin de croyance serait lié, serait en lien avec la nécessité de maîtriser, d'une certaine façon, de maîtriser la réalité, pour le dire comme ça, pour le dire rapidement. Et vous avez raison de vous poser la question de savoir pourquoi l'humain a-t-il ce besoin de croyance ? Ce que Freud dit, et il le dit beaucoup dans son texte qui s'appelle « L'avenir d'une illusion », qui est un texte sur la religion, précisément, et il souligne à plusieurs reprises que ce besoin de croyance est lié à l'état primaire de détresse de l'humain. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, l'Hilflosigkeit, la détresse primaire du petit enfant devant une réalité qu'il ne maîtrise pas, eh bien, à ce moment-là, Freud dit que commence à se fabriquer, si je puis dire, la nécessité de croire dans l'autre, ou en tout cas dans une situation qui viendrait l'aider, qui viendrait rassurer cette détresse dans laquelle il peut se trouver. Et pour Freud, la religion, les croyances font partie de cette nécessité d'être rassuré face à une réalité qui est toute puissante, écrasante, qu'on ne comprend pas. Ça, c'est vraiment un point intéressant aujourd'hui, je trouve, parce que d'une certaine façon, même si les discours rationnels, les discours scientifiques se multiplient, eh bien, ça ne suffit pas à rassurer ou à protéger les personnes au plan psychique. Et d'une certaine façon, ce qui est intéressant, c'est que plus on rationalise les choses, plus le besoin de croire ou de fabriquer des illusions en dehors même de la rationalité se fabrique en même temps. Ça, je trouve que c'est intéressant à penser. Et ce que votre question me fait dire aussi, c'est que il y a un certain rapport au savoir lorsqu'on est confronté à la question des croyances ou des illusions. Est-ce que l'être humain est prêt à ne pas savoir quelque chose ? Et d'une certaine façon, ne pas savoir, qui est source d'inquiétude, voire d'angoisse, peut générer de la fabrique de croyances ou d'illusions, justement pour venir à la place de ce non-savoir.
Ça me fait penser au... Quand une histoire d'amour est terminée, on a certains ont tendance à découper les photos de son ex, ou aujourd'hui de jeter les images de son téléphone. Alors je me demandais finalement pourquoi on faisait ça et est-ce que ça nous aidait vraiment ? Merci pour votre réponse.
Merci Aline de votre question. Est-ce que effacer les images permet d'effacer le souvenir ? Ça, c'est une vraie question très intéressante. Comme si, en fait, la forme même, enfin le support, la matérialité de l'image suffisait à, une fois qu'on s'en débarrasse, suffisait à faire en sorte d'effacer le visage de la personne. Alors, évidemment, c'est toute la question du souvenir, voire du rêve. La personne aimée, dont on s'est séparé, peut revenir en rêve. C'est aussi une image mentale. Donc en fait, si on efface volontairement l'image de la personne dont on ne veut plus se souvenir, ça n'est pas sûr que son image mentale s'efface, parce qu'elle revient, encore une fois, dans les souvenirs, dans les rêves, en dehors même de notre volonté. L'acte volontaire d'effacer les images ne présume pas de l'effacement de la personne dans l'inconscient ni dans la vie psychique. D'une certaine façon, ça veut bien dire que notre volonté n'est pas toute puissante par rapport à l'inconscient. Merci pour vos questions et merci à Nicolas Delmas à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Clotilde Le Guil. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast dans l'application Radio France, sur toutes les plateformes ou sur notre page internet L'Inconscient, sur franceinter.fr, et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 5 mai pour mon prochain épisode.